Chapitre 9. Flottement. Promenons-nous un peu, continua Madame Black. J'ai un négociant à voir près d'ici. Je passe à Paris 2 jours seulement pour mes affaires. Nous causerons en marchant. Toutes deux, se tenant par le bras, suivirent le quai tranquille et désert à 7 heures. Comme je vous le disais, Thérèse, il faut penser à tout. Le monde n'est pas grand et c'est toujours la chose improbable qui arrive. Le hasard est pervers, voyez-vous ? Je suppose que vous épousiez M. Marc Maujon en lui laissant croire qu'il épouse une jeune fille. Non, réellement, non. Il faudrait une femme bien plus rouée que vous pour soutenir cette tromperie. Le moment viendra où vous avouerez forcément. Alors, vous regretterez de n'avoir pas commencé par là. Ou bien, je suppose, tout arrive, que vous vous trouviez un jour face à face avec Pierre Coum. « Le ciel m'en préserve !» s'écria Thérèse. « Bon, j'aime ce cri. Mais il se peut que votre mari vous questionne, il se peut que Pierre Coum ait le désir de vous expliquer sa mauvaise action. Enfin, que sais-je, même en écartant le pire, vous n'aurez pas une minute de sécurité dans votre vie conjugale. Vous êtes honnête et sensible, donc très vulnérable. Oui, Thérèse, mon avis est celui-ci. Racontez à M. Marc Maujon votre triste aventure et sans tarder. » Quand je vous ai dit « c'est un rêve, n'en parlez à personne », je pensais à un entourage de connaissances, de gens indifférents. Le mariage, cela change les conditions. « Ce sera trop dur, je n'ose pas y penser », murmura Thérèse, qui s'arrêta comme si la respiration lui manquait. « Et puis, Jeanne, vous oubliez le point le plus dangereux. S'il se trouvait que je sois mariée, légalement, à Pierre Coum, je n'ai pas la preuve du contraire. » « Vous pouvez biffer cette supposition, » prononça Jeanne d'un ton définitif. Le registrar n'a pu être retrouvé, son existence était fictive. Pierre Coum, voyant qu'il ne pouvait passer outre à vos honnêtes principes, a organisé une petite cérémonie. Où, comment, avec quelle complicité? Ça, on ne le saura qu'au jugement dernier. Non, Thérèse, vous n'avez pas à craindre d'engager M. Marc Maujon et vous-même dans la bigamie. « Ne dites pas ce mot !» s'exclama Thérèse avec horreur. « Je dis tout simplement que la chose et le mot sont exclus. Donc l'avenir dans le mariage peut être envisagé. Mais sans mystère et sans tromperie. Voilà mon avis, Thérèse. Faites-en ce que vous voudrez. Vous avez probablement raison, cher Galimard si sage. Oui, je vois clairement ce que je devrais faire, si j'en trouve le courage. Risquez-vous. Vous ne perdrez rien à une confession. Si ce jeune homme vous aime assez, il vous aimera davantage pour votre loyauté. Il vous épousera comme on épouse une pauvre petite veuve que la vie a traitée cruellement. Si votre confession le révolte et l'éloigne, c'est qu'il ne vous aime pas assez. La situation sera nette. En elle-même, Thérèse trouvait ce dilemme, d'apparence si logique, bien insuffisant pour couvrir les fluctuations de ses sentiments personnels, et les ondoyantes hésitations, les réactions imprévisibles d'une mentalité aussi bizarre que celle de Marc Maujon. Les deux solutions n'étaient pas si carrées et coupées au couteau comme Jeanne les présentait. Une autre alternative devait être envisagée. Si Marc Maujon, profondément déçu, froissé, peut-être écœuré par le récit de Thérèse, se jugeait cependant trop engagé pour reculer, si, par scrupule chevaleresque, il prononçait enfin la parole définitive et se liait, Thérèse pourrait-elle ensuite, à force de soins et de tendresse, construire leur bonheur conjugal sur cette mauvaise base ? « Il faut que je vous quitte ici pour aller à mes affaires, » fit Jeanne, qui possédait la faculté rare de se taire quand elle avait tout dit. « Venez à 7 heures à mon hôtel, le Petit Vendôme. » Amenez votre ami qui ne se formalisera pas d'une invitation à si court délai. Nous dînerons, nous causerons, il se passera bien quelque chose. Dans les embarras de ma vie, c'est toujours un imprévu qui m'a tiré d'affaire. Thérèse ira seule encore une bonne demi-heure pour mettre de l'ordre dans son esprit où l'obligation de l'aveu se dressait toujours plus impérieuse. N'avoir rien dit, quelle sécurité, quelle douceur! Est-il une âme au monde qui n'ait ressenti une fois ou l'autre que la possession de son secret est un trésor? L'oiseau bien caché dort dans sa cage. Si on lui ouvre la porte et la fenêtre, il faut admettre d'avance que cet acte est irréparable. J'arrive tard, dit Thérèse en rentrant à son bureau. À vrai dire, je ne suis pas en veine de travailler. Ce sera un jour de détente. Mon ami vous envoie ses compliments et vous invite avec moi à dîner à son hôtel. Vous n'avez pas d'empêchement, j'espère.
Aucun. Je serai très heureux. Habit ou smoking?
Vous savez ce qui convient pour le petit Vendôme.
C'est un lieu assez sélect. Mais vous-même, ne mettez pas votre robe noire, celle qui fait jeune veuve. Je préfère tellement la robe bleue avec des marguerites. Est-ce que je suis indiscret à ce point? Votre visage devient...
Ah, vous savez...
Non, vous ne savez pas ce qu'il peut devenir fermé à cadenas, votre visage.
Thérèse haussa les épaules et entra dans la grotte où elle avait laissé son portefeuille. Madame Black Galimard, en robe de satin gris à guimpe de réseau d'argent très montante, Thérèse en bleu tout ce qu'il y a de plus jeune fille, et Marc Maujon, qui portait bien l'habit, formaient un trio suffisamment distingué parmi les élégances, l'ostentation et la raideur que les Américains de ce temps-là avaient adopté comme le suprême bon ton. Jeanne Black causa peu pour commencer, parce que le potage était exquis. Davantage après les canetons, et quant au filet Chateaubriand, il était assez banal pour qu'on pût le manger sans y penser.
« Comptez-vous garder éternellement mon amie Thérèse à Paris ?» demanda Jeanne en se tournant vers Marc Maujon, que la vue très proche de la robe bleue semblait avoir épanouie.
« Pourriez-vous, madame, répondit-il, ce qui n'était guère une réponse, nous indiquer un pays à cathédrale en dehors de la France et de l'Angleterre ?»«
Mais il y a la Suisse, fit Thérèse. » Saint-Pierre et les autres, à Berne, à Bâle.
Et dans le Proche-Orient, n'y a-t-il pas aussi des cathédrales ? Poursuivit Jeanne. Je ne suis pas forte en géographie, mais à Prague, et à Cologne, et à Vienne, à Constantinople, je mêle tout ça comme un jeu de joncher. Un instant, voici les fonds d'artichaut qui réclament mon attention.
Tous ces noms de villes étrangères, dit Thérèse en s'adressant à Marc, pour ne point troubler leur hôtesse dans sa dégustation recueillie, ça réveille mon envie de voir des coins du monde que je n'ai pas encore vus.
Oh, est-ce bien nécessaire ? Fit-il avec quelque impatience. Pour votre âge, vous avez déjà pas mal voyagé. Londres, Paris ne pourraient vous suffire. Je n'en demande pas davantage.
Pour vous ou pour moi ? Fit-elle étourdiment.
Mais pour les deux, si vous voulez.
Ah, le voilà bien ! Pensa-t-elle irritée, avec ces petits bouts de phrases qui peuvent signifier tout ce qu'on voudra. Si j'étais astucieuse comme beau pastel, je ferais la naïve. Je lui demanderais ce qu'il entend en disant « Pour les deux, si vous voulez. » Mais le moment serait bien mal choisi, ici, à table, devant Jeanne. Ce fut elle qui intervint.
« Vous avez raison à mon sens, cher monsieur. » Moi, avec mes idées françaises, je n'encourage pas non plus les jeunes personnes à voyager loin. Sait-on ce qui peut leur arriver ?
Qu'est-ce qui pourrait bien leur arriver ? S'exclama Thérèse avec un éclat de rire.
Il lui sembla que Jeanne lui envoyait une balle qu'elle devait retourner. Des aventures fâcheuses. Ce fut d'un air fort sérieux que Jeanne prononça ces trois mots. Il y eut un court silence pendant lequel Thérèse entendit les battements de son cœur dans ses oreilles. Son amie allait-elle, par cette préface, amorcer la confession, aider, expliquer, guider Marc Maujon dans le trajet difficile vers la compréhension ? La minute tragique était-elle venue ?
« Permettez-moi de dire, fit le jeune homme qui semblait plus mondain, plus frivole qu'à l'ordinaire, sans doute à cause de son plastron blanc où l'on voyait trois perles et de son habit bien coupé. Permettez-moi de dire qu'en essayant de dissuader Mademoiselle Lemaire de reprendre son tour du monde, je ne craignais point du tout pour elle des aventures fâcheuses. À mon avis, il n'arrive d'aventures fâcheuses qu'aux jeunes filles qui les veuvent et les cherchent. » Son ton était presque cassant. Lui-même en parut gêné et il regarda tour à tour Madame Black, qui eut un petit geste d'épaule difficile à interpréter, et Mademoiselle Lemaire, immobile et figée. Ni l'une ni l'autre ne prononça une syllabe.
« Je crois que j'ai mis le pied sur un terrain dangereux, » fit-il en s'efforçant de rire.
« Très dangereux, » fit enfin Madame Black. « Voyez-vous, cher monsieur, quand il s'agit des femmes, il ne faut jamais être trop affirmatif. »
Cette fois, pensa-t-elle, j'en ai assez dit, j'ai ouvert le chemin. Je ne vais pas moi-même raconter à ce garçon l'histoire de Thérèse. quoique... C'est peut-être une idée. Si j'avais la permission de Thérèse...
Le dîner se termina agréablement par la pêche Melba et le café. Une cigarette pour Mac Maujon, car dans ces temps reculés, les femmes ne fumaient pas encore en public. Au départ, comme Madame Black mettait sur les épaules de Thérèse son léger manteau de soie, elle lui souffla dans l'oreille. « Voulez-vous que je lui parle ?»«
Oui, » murmura Thérèse dans un soupir si profond qu'on eût pu croire qu'elle rendait l'âme.
Elle ne ferma pas l'œil de la nuit. Le matin, sa première impulsion fut de courir au petit Vendôme pour retirer ce consentement qui lui paraissait maintenant insensé.
Mac Maujon me trouvera lâche de ne pas oser lui parler moi-même. Et puis, je ne verrai pas l'expression de son visage, je n'entendrai pas sa voix quand il posera des questions à Jeanne. D'ailleurs, il ne dira peut-être pas un mot. Et qu'est-ce que je saurai ensuite? Rien que ce qu'il plaira à Jeanne de me répéter.
Dans ses hésitations, elle perdit une heure. Quand elle arriva à l'hôtel, Madame Black était déjà sortie, car à Paris, on est plus matinal qu'à Londres et l'on peut traiter des affaires dès 9 heures et même plus tôt. Thérèse passa la journée dans une mortelle anxiété. Elle n'alla pas à son bureau, elle feuilleta des livres et griffonna des notes sans savoir ce qu'elle faisait. Madame Dugard, passant et repassant un coup de mistral de la cuisine à la salle à manger, jetait des regards désapprobateurs sur les paperasses de sa pensionnaire.
« Est-ce qu'il y a brouille entre vous et... votre bureau ?» demanda-t-elle d'un ton assez désagréable, tandis que Thérèse ouvrait un billet que le groom du petit Vendôme venait d'apporter.